L'intelligence artificielle. On en parle partout, on voit des démos, des choses assez incroyables et des projets qui se lancent. Et pourtant, j'ai cette drôle d'impression que la grande révolution, celle qui devait tout balayer, elle se fait un peu attendre. On voit des étincelles, oui, mais pas encore le grand incendie, si je puis dire.
C'est ça. Et c'est justement le cœur du sujet d'aujourd'hui qu'on explore à travers un article vraiment passionnant de David Leblanc.
Des expériences d'IA aux usines à impact.
Exactement. Et son idée de départ, elle est simple, mais franchement, elle est décapante. Pour lui, le principal obstacle à l'IA, ce n'est pas la technologie.
Non.
Non, c'est l'organisation qui est censée l'accueillir.
D'accord.
Et il commence avec une mise en garde que je trouve très puissante. L'IA, c'est un amplificateur. Si on la branche sur un processus bien huilé, ben ça va démultiplier la performance. Mais si on la branche sur le chaos ambiant, ça ne fera qu'amplifier le chaos.
C'est une image très forte. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de creuser un peu cette idée, de comprendre pourquoi tant d'entreprises se retrouvent avec des prototypes qui, au final, ne deviennent jamais des produits à grande échelle.
Tout à fait. Et pour ça, on va regarder un peu en arrière, voir ce que l'histoire peut nous apprendre.
Ce que je trouve fascinant dans cette approche, c'est que pour comprendre le futur de l'IA, eh bien, on nous propose un bond d'un siècle en arrière. On retourne à l'époque des premières usines. Ça paraît loin, mais le parallèle est saisissant.
Il est parfait.
L'IA serait comme les premières machines-outils, une invention de génie, mais utilisée de façon complètement artisanale.
C'est exactement ça. L'analogie avec la naissance de l'automobile est parfaite pour le comprendre. À la fin du 19e siècle, les voitures sont assemblées à la main.
Une par une.
Une par une. Ce sont des objets de luxe pour quelques riches clients. Et pourtant, la technologie, elle, existait déjà. Les machines-outils, les tours, les fraiseuses.
Tout ça était déjà là.
Oui, elles étaient là, mais elles restaient isolées dans des ateliers. On les utilisait pour fabriquer une pièce de temps en temps. La révolution n'est pas venue de la machine seule.
C'est contre-intuitif, ça. On a tendance à penser que c'est l'invention technique qui fait la révolution. Mais là, on comprend que la technologie était déjà disponible et en fait, largement sous-utilisée. Ça me fait me demander ce qu'on rate aujourd'hui. Qu'est-ce qui a vraiment tout changé alors à l'époque?
C'est le passage de la machine à l'usine. C'est l'organisation systémique qu'Henry Ford a, on va dire, popularisée. Il n'a pas inventé une meilleure machine-outil, non. Il a inventé un système autour des machines.
D'accord.
Et ce système, il repose sur des choses qui peuvent nous paraître banales aujourd'hui. Hein. La standardisation des pièces, par exemple, chaque boulon est identique à l'autre. La division du travail, et bien sûr le grand symbole, la chaîne de montage.
La fameuse chaîne.
Voilà. Ce n'est pas la machine qui a fait la révolution, c'est son intégration dans un flux, dans une chaîne pensée de A à Z.
Et le parallèle avec l'IA est là?
Il est là, oui. On a des modèles surpuissants, nos machines-outils intellectuels, mais...
Ils fonctionnent souvent en solo.
Hors de véritables lignes de production de la connaissance.
C'est ça. C'est une image qui parlait énormément. Mais ce n'est que la première étape du raisonnement de l'article. Car même avec ces usines remplies de machines bien alignées, un autre problème a vite émergé.
Ah oui?
Avoir le hardware, disons, ça ne suffisait pas.
Exactement. Il manquait le software managérial. L'exemple des filatures de Manchester au milieu du 19e est parfait pour ça. Les usines étaient à la pointe avec des métiers à tisser mécaniques qui tournaient à plein régime.
Mais
la production était chaotique. Des pannes constantes, des goulots d'étranglement, une qualité très très variable.
D'accord. Reviens en scène, en poussant cette logique à son...
À son paroxysme.
Totalement.
Si je comprends bien, son modèle, c'est la centralisation totale de l'intelligence. Au sommet, il y a les ingénieurs qui pensent à tout.
Qui planifient tout.
Et en bas, sur la chaîne, les ouvriers exécutent. Une seule tâche, répétée à l'infini, sans réfléchir.
C'est ça. Le résultat est spectaculaire en termes de productivité, bien sûr. Mais on imagine le coût humain.
Une rigidité totale et une démotivation massive. Une démotivation et surtout une perte d'intelligence collective. Et c'est justement cette faille qui va provoquer la deuxième grande révolution managériale.
Un demi-siècle plus tard.
Oui, avec Toyota. Au Japon, après la guerre, le contexte est radicalement différent. Pas de ressources donc, pas de gaspillage possible. Toyota ne peut pas se permettre le modèle de Ford.
Ils doivent être plus malins.
Beaucoup plus. Ils vont donc inverser la logique. Au lieu de concentrer l'intelligence tout en haut, ils vont la distribuer partout dans la chaîne.
Comment ça?
Chaque opérateur, sur la ligne, a non seulement le droit, mais le devoir d'arrêter toute la production s'il détecte un défaut. Chacun est encouragé à proposer des améliorations.
Et là, il y a une formule dans l'article qui m'a vraiment marqué.
Laquelle?
Ford a inventé la production de masse, Toyota a inventé la production intelligente. C'est puissant, non?
C'est très puissant.
Ça déplace complètement le but de l'automatisation. On ne cherche plus seulement à faire plus vite.
Non, on cherche à apprendre plus vite. L'usine devient un organisme apprenant.
C'est un changement de mentalité total.
Un changement de mentalité qui est au cœur du problème actuel, en fait. Parce que ce détour par l'histoire, il nous éclaire assez brutalement sur la situation de l'IA aujourd'hui.
C'est-à-dire?
Ben, quand on regarde comment la plupart des grandes organisations abordent le sujet, on a l'impression de voir soit des artisans qui bricolent dans leur coin, soit des usines fordistes qui essaient d'appliquer une solution unique et rigide à tout le monde. On expérimente, on lance des pilotes, mais l'étape de l'industrialisation à la Toyota, celle de l'apprentissage continu, elle semble hors de portée.
On a un exemple très concret dans le texte qui illustre ça parfaitement, celui d'une grande banque. Il part de ce phénomène des îlots de productivité.
Oui, c'est très parlant. Dans un pays, cette banque déploie un assistant IA, un copilote, pour ses conseillers clients.
Et ça marche?
Ça marche très bien. Les réponses aux clients sont plus rapides, de meilleure qualité, les conseillers gagnent du temps, c'est un succès.
D'accord, mais où est le problème alors?
Le problème, c'est que cet îlot de modernité est entouré d'un océan de processus qui n'ont pas bougé d'un iota. Le back-office fonctionne comme avant, les systèmes centraux sont les mêmes, la conformité à ses propres règles.
Je vois.
L'IA a optimisé une tâche, mais elle n'a pas transformé la chaîne de valeur. On a créé un TGV qui doit rouler sur des rails du 19e siècle.
Au fond, non.
Il y en a plusieurs. Les vieux systèmes informatiques, le fameux legacy, qui sont des forteresses, le manque de compétences, bien sûr. Mais l'article pointe un facteur plus subtil et redoutable.
La loi de Conway.
La loi de Conway, exactement.
Ah oui, cette idée que le produit d'une organisation finit toujours par ressembler à sa structure interne, à sa structure de communication.
C'est ça. Autrement dit, si votre entreprise est organisée en silos qui se parlent peu, le marketing d'un côté, les opérations de l'autre, l'IT dans son coin, alors ?
Alors les projets d'IA seront aussi en silos.
Forcément. Chaque département va lancer sa propre expérience, avec ses propres données, ses propres outils. On n'additionne même pas les forces, on les disperse.
Et on se retrouve avec ce que l'article appelle une constellation d'expériences.
Voilà, c'est joli à regarder de loin, mais ça ne produit aucune énergie, aucune dynamique d'ensemble.
Donc si on suit ce raisonnement, la sortie de l'impasse, ce n'est pas de trouver un meilleur algorithme.
Non.
C'est de repenser l'organisation. Et le concept proposé pour ça, c'est l'usine à impact. J'avoue que le terme... il sonne un peu comme du jargon de consultant.
Oui, on pourrait le croire.
Concrètement, ça veut dire quoi? Comment on évite que ça reste juste une belle idée sur un PowerPoint?
C'est une excellente question, parce que le risque est réel. La philosophie derrière est en fait très très pragmatique. Ça veut dire qu'on arrête de partir de la technologie en se demandant où est-ce que je pourrais bien mettre de l'IA.
On inverse la démarche.
On inverse complètement. On part d'un problème métier concret, on observe, on teste une solution à toute petite échelle, et si... et seulement si on mesure un impact réel, on passe à l'étape suivante.
C'est le principe fondamental de l'article, ça.
Oui, en elle, la technologie amplifie ce qu'elle touche. Si votre processus est clair, il deviendra ultra performant. Si votre processus est confus ou biaisé, il deviendra un monstre incontrôlable.
D'accord, la philosophie est claire. Mais pour la mettre en œuvre, par où on commence? L'article parle de quatre piliers.
Oui, quatre actions clés. La toute première, c'est de prioriser. Ça peut paraître banal de le dire, mais c'est rarement bien fait.
C'est-à-dire?
Il faut cartographier les cas d'usage potentiels et les évaluer sur deux axes très simples. La valeur qu'ils peuvent créer et leur faisabilité.
D'accord.
Et on se concentre sur les quelques projets qui sont à la fois à fort impact et réalisables. On oublie le reste pour le moment. Il faut choisir ses batailles.
Et... une fois qu'on a choisi, j'imagine qu'il faut éviter que chaque équipe réinvente la roue dans son coin.
C'est le deuxième pilier, standardiser. L'idée est de créer une AI factory centrale. Ce n'est pas une usine physique, hein, bien sûr.
Non, bien sûr.
C'est une équipe et une plateforme qui fournissent des composants réutilisables. Un accès simple et sécurisé aux données, des modèles de base pré-entraînés, une infrastructure commune.
Le but est en deux.
Le but est de permettre aux équipes projet de se concentrer sur la résolution du problème métier, pas de passer 6 mois à négocier l'accès à une base de données.
Ok, donc on priorise et on fournit des outils. Ensuite, il faut s'assurer que ça tourne de manière fiable.
C'est le troisième pilier, industrialiser. Il faut arrêter de traiter l'IA comme un projet de recherche et commencer à la gérer comme un actif industriel critique.
Ça change tout.
Ça change tout. Ça implique une gouvernance claire, des indicateurs de performance, une mesure systématique du retour sur investissement. Un modèle d'IA en production, ça doit être aussi fiable et supervisé qu'une machine sur une ligne d'assemblage. On ne peut pas se permettre qu'il tombe en panne sans que personne ne s'en aperçoive.
Et le dernier pilier, ça semble être le plus humain, celui qui boucle la boucle avec Toyota.
C'est le plus important et le plus difficile. Aligner.
Aligner quoi ?
Aligner les pratiques managériales. On ne peut pas construire une usine à impact du 21e siècle avec un management fordiste du 20e.
Logique.
Ça veut dire adopter des approches comme le lean ou l'agilité, où les équipes sont autonomes, pluridisciplinaires et obsédées par la valeur apportée aux clients. C'est ce qui leur permet de tester, d'apprendre et de s'améliorer en permanence. Exactement comme les opérateurs sur la ligne Toyota.
Et la conclusion de l'article est assez brutale, finalement. En gros, si une entreprise n'a pas déjà fait sa révolution managériale vers le lean ou l'agilité, l'IA ne sera pas une solution magique.
Non, au contraire.
Elle risque même de creuser encore plus l'écart avec celles qui l'ont faite.
L'IA va juste accentuer leur retard.
Finalement, si on résume, le message principal, c'est que la révolution de l'IA est avant tout une révolution du travail.
Oui, tout à fait.
La question n'est pas « comment faire de l'IA à ?» mais plutôt comment construire une organisation capable de produire de la valeur de manière continue, où l'IA devient un outil naturel.
Exactement.
Un peu comme la machine-outil sur la chaîne de Ford ou le capteur de qualité sur la ligne de Toyota. Ce n'est qu'un moyen, pas une fin en soi.
C'est la synthèse parfaite. Et ça nous laisse avec une question de fond, une question un peu provocatrice.
Ah.
Si les grandes entreprises établies luttent autant pour déployer l'IA à grande échelle, est-ce que ce n'est pas simplement parce que leur culture, leur processus de décision, leur structure hiérarchique...
Leur ADN, en quelque sorte.
Tout leur ADN, oui, est encore hérité des modèles du siècle dernier. Le véritable obstacle à la révolution de l'IA, ce n'est peut-être pas la complexité du futur, mais simplement le poids écrasant du passé.
Atelier un peu trop plein. Son intelligence artificielle voyait l'horizon, mais personne ne comprenait à quoi ça sert vraiment. Il disait regardez, elle prédit tout. On lui répondait oui mais pourquoi faire une merveille sans point de rendez-vous, un moteur sans la route à éclairer. Il lui manquait juste un problème clair, une douleur vraie, terrain réel. Sans ça, son intelligence artificielle restait dans l'air légère et irréel. Avec usine à impact, l'intelligence artificielle trouve enfin son pas dans le vent. Quand l'humain lui montre où résoudre vraiment, alors l'histoire roule, s'allume et tout prend sens. L'intelligence artificielle n'a de valeur que quand l'usage est là. Et l'usine à impact l'emmène plus loin que soi. Débarqua tout en trompette, accordéon, basse et joie dans les pas. Il observa chaque geste, chaque fenêtre et dit ton intelligence artificielle, je sais où elle dansera. Choisis son vrai souci du terrain, un seul endroit où la chaîne cale. Là ton modèle fera du bien et pas un simple feu digital. Alors Aurora trouva la cadence dans la chaleur du bruit des machines. Quand l'usage mène la artificielle trouve enfin son pas dans le vent. Quand l'humain lui montre où résoudre vraiment, alors l'histoire roule, s'allume et tout prend sens. L'intelligence artificielle n'a de valeur que quand l'usage est là. Et l'usine à impact l'emmène plus loin que soi. Quand l'usine à impact met le rythme en avant, l'intelligence artificielle trouve enfin son pas dans le vent. Quand l'humain lui montre où résoudre vraiment, alors l'histoire roule, s'allume et tout prend sens. L'intelligence artificielle n'a de valeur que quand l'usage est là. Et l'usine à impact l'emmène plus loin que soi. Le rythme en avant, intelligence artificielle danse enfin sur le bon terrain. Quand l'humain éclaire ce qu'elle doit résoudre, le futur prend forme dans le même refrain. L'intelligence artificielle n'a de sens que guidée par nos pas. Et l'usine à impact l'emmène plus loin que soi.